Ce soir, spécial Afghanistan. Nous avons en effet souhaité entendre des artistes, des intellectuels, des spécialistes de ce qui se passe là-bas, dans ce pays qui souffre. Et nous avons eu la chance d'avoir dans ce studio ce soir Charbanu Sadat, Gilles de Rossoro, Ousnia Anouari, Khasro Mani et Ariane Mouchkine. Nous voulons simplement les écouter, sans rentrer dans les détails géopolitiques, diplomatiques ou militaires. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, grâce à la poétesse Ousnia Anouari. Merci d'être là ce soir, Ousnia Anouari. Vous êtes poète, vous êtes journaliste, vous êtes originaire de Kaboul, vous vivez en exil en France depuis quelques années. Votre arme de résistance, c'est la poésie. Vous êtes accompagnée ce soir par Kengo Saito au roubab et vous allez nous lire pour commencer cette émission un de vos poèmes.
شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم من که منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم چه بگویم سخن از شهد که زهر است و کامم باز آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بنازم چه بگیریم چه بخندم چه بمیرم چه بمانم منو این کنج اسارت غم ناکامی و حسرت که عبس زادم و مهر بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم اشرت من پربسته چه سازم که پریدن نتوانم گرچه دیریست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم یاد آن روز گرامی که قفس را بشگافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم من نه آن بید ضعیفم که سحر باد بلرزم دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم
Merci à vous deux. Ousnia, pouvez-vous nous traduire votre poème ?
Oui, c'est un poème de Nadia Anjuman, la poétesse afghane qui est morte par la violence familiale, par son mari, voilà. Et sa mort a été vraiment tragique. Donc, ce poème, le titre de ce poème est « 20 ». Donc, il parle de la liberté des femmes. En fait, une femme qui voulait être libre et chanter et s'exprimer ses émotions, sa pensée, tout ce qu'il pense, mais il n'arrive pas parce que elle se sent comme dans une cage et elle ne peut pas chanter. Elle a envie de voler, mais elle ne vole pas parce que ses ailes sont attachées. Et ce poème parle de la liberté d'une femme, mais qui n'est pas libre, qui est dans la, elle n'a pas quelquefois dans la tradition ou dans le monde fermé par la politique, par la tradition, par la religion ou quoi d'autre. Donc il n'y a pas de liberté et cette femme est dans une cage. Et il se sent pas libre. Il n'arrive pas à voler. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle n'arrive pas à chanter. Mais elle a tellement envie de chanter et s'exprimer et lire et dire ce qu'elle pense.
Gilles de Rossoro, vous avez un itinéraire un peu particulier parce que vous êtes aujourd'hui enseignant à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'Afghanistan, vous avez publié de nombreux livres sur l'Afghanistan, la révolution afghane, et le dernier, c'est le grand tournant de l'Afghanistan, sous-titré « Une si prévisible défaite », titre qui sonne de manière étrange aujourd'hui. Vous aviez fait votre thèse sur l'Afghanistan et vous avez vécu en Afghanistan pendant longtemps avant d'en devenir le spécialiste. Alors nous, quand on essaye de savoir ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui même, on est confronté à des informations contradictoires. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui, mardi soir, en Afghanistan, Gilles ?
Alors oui, ça fait un peu plus d'une trentaine d'années que je travaille sur l'Afghanistan. J'ai beaucoup voyagé, plus que vécu réellement. Et un des problèmes de l'Afghanistan, c'est la difficulté, surtout en période de crise, d'avoir des infos fiables. Et ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la situation, elle est assez duale. C'est-à-dire que d'un côté, on a une normalisation de la vie quotidienne. Les gens vont faire le marché, les gens se déplacent assez librement. En tout cas, s'ils n'ont pas de problème politique avec les talibans. Donc, il y a une normalisation de la vie. C'est la fin de la violence.
L'espace public est sécurisé.
Et sécurisé, voilà. Une normalisation au sens immédiat du terme. Et de l'autre côté, on a des pôles de résistance qui s'affirment, non pas dans le Panjshir, c'est une bulle médiatique, mais...
C'est important de le préciser, oui. Parce que là oui. Aussi, au Panjshir, on a des informations, sur le Panjshir, des informations contradictoires. Non. Le taliban disent que le Panjshir est tombé, les résistants du Panjshir disent que...
Non,
c'est
pas quelque chose qui est militairement, stratégiquement important. Les vrais pôles de résistance, on les voit, c'est une résistance sociale, c'est-à-dire que vous avez des femmes qui, avec un grand courage, manifestent dans les rues. Pratiquement tous les jours, c'est des petites minorités, c'est dans les grandes villes, mais ça existe, ce qui prouve qu'elles sont probablement représentatives d'un courant plus large. Et vous avez aussi une manifestation récente anti-pakistanaise qui a été dispersée de manière assez brutale, ou même très brutale. Donc vous avez ces
Avec des tirs.
Bon, ça, c'est une grande tradition afghane. Toutes les protestations dans l'espace public sont dispersées violemment. Ça, c'est pas une spécialité des talibans. Mais toutes ces résistances sociales montrent qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas sortir d'Afghanistan et qui sont porteurs d'autres valeurs, d'une valeur de modernité au sens très large, qui, à la fois, ces valeurs ont été portées avec l'invasion américaine, le renversement des talibans depuis 2001, mais préexistaient assez largement. Donc il y a tout un courant moderniste en Afghanistan qui remonte pratiquement au début du XXe siècle. Et donc c'est l'affrontement de ces deux courants qui aujourd'hui fait ce côté tragique de l'Afghanistan. Et malheureusement, bon, les modernistes ont perdu très clairement.
Alors vous venez de dire que les Afghans qui le souhaiteraient ne pourraient pas partir. Or, il y a des annonces des talibans disant que toutes les personnes qui voudraient sortir de l'Afghanistan pourront le faire, pas seulement les étrangers, mais aussi les Afghans. Donc ce sont de fausses informations, vous n'y croyez pas ?
Ah, pas forcément. Alors il y a plusieurs cas. D'abord, il y a tous ceux qui sont recherchés activement par les talibans. Ça peut être des gens qui ont collaboré avec les forces étrangères, des gens qui étaient dans la police, les services secrets. Donc ceux-là, de toute façon, leur destin est assez peu prévisible, mais il sera probablement pas merveilleux. Et puis il y a des gens qui pourraient sortir, sauf qu'il faudrait leur donner des visas. Et c'est nous qui donnons les visas, c'est pas les talibans. Donc je pense que dans la déclaration des talibans, il y a une forme de cynisme qui répond à notre propre cynisme. C'est-à-dire, oui, vous êtes libre de partir, il vous faut un passeport et un visa, sachant que les ambassades ne vont pas ouvrir dans un avenir prévisible, et que les pays occidentaux, visiblement, ne voudront pas donner de visa. Donc je pense que c'est un peu ça, la situation.
Shabanu Sadat, merci d'être là. Vous êtes arrivé il y a très peu de temps de Kaboul. Vous êtes pour le moment en France. Vous allez peut-être partir dans un autre pays européen. Qu'avez-vous vécu au cours des dernières semaines quand vous étiez à Kaboul?
You know, I got alarmed a few weeks before everything started.
Quelques semaines avant que tout ne commence, j'ai commencé à être alertée.
And I'm saying that because usually I'm not a realistic person.
Je le dis parce que généralement je suis pas très réaliste.
So the situation de tempérament, was that bad,
c'est vous dire que la situation like était tellement catastrophique que quelqu'un comme moi était en mesure de comprendre que les choses se présentaient mal.
That was end of July when
ça,
Taliban,
c'était à la fin du mois de juillet, je dirais, lorsque les talibans ont occupé deux secteurs de district de Bamyan.
Bamyan is central Afghanistan. We are part of my family.
C'est au centre de l'Afghanistan, c'est la ville où vivent des membres de ma famille, mon frère notamment.
And many people, on result of this, many people they got displaced. Many people they escaped the mountain.
Il y a eu des déplacements de population importants. Il y a des gens qui ont fui vers les régions montagneuses.
So nine people of my family they moved to my new apartment in Kabul.
Neuf personnes de ma famille qui étaient dans cette zone sont venues à Kaboul et sont venues vivre avec moi dans mon appartement pendant plusieurs semaines. Donc à partir de ce moment-là, donc ma vie n'était plus normale de fait.
I received calls from my sister,
j'ai reçu des appels de ma sœur, des gens qui étaient à Hambourg en France, des gens qui me connaissaient qui me disaient mais quitte le pays. Tout de suite. J'avais un visa pour le Canada, pour le Pakistan. Je pouvais partir, moi, en tant que telle, mais le reste de la famille, c'était ça le problème. Et quand je dis la famille, c'est 17 personnes, mes sœurs qui sont mariées, leurs enfants, mes neveux, mes parents, enfin, toute la famille au sens large. Il fallait évacuer la totalité de la famille et c'était ça qu'il fallait que j'organise avant de pouvoir, moi, quitter le pays. Mais c'était absolument impossible. Aussi pour la bonne raison qu'ils n'avaient pas de passeport déjà. Et il aurait fallu que je puisse avoir un passeport pour tous les membres de la famille.
So my work was to go to passport office and other governmental offices.
Ce que je faisais, c'était me rendre dans les instances publiques chaque jour de 8h à 17h et je faisais la queue toute la journée pour obtenir ces passeports pour la famille. Bien sûr, ça n'a servi à rien, bien sûr, parce qu'on n'a pas reçu de passeport, j'en ai pas eu pour les membres de ma famille. À ce moment-là, donc j'ai essayé d'entrer en contact avec mes amis à l'étranger, leur demandant de nous aider. Et le 15 août, j'ai reçu un email dans ma messagerie. C'était une de ces personnes que je connais, ressortissant américain, qui a dit, voilà, j'ai une place sur un avion avant que les talibans n'investissent Kaboul. Et cette amie américaine m'a dit, elle m'a dit qu'ils allaient arriver dans quelques heures.
And I ask who else is with me in this list and she said only parents.
Mais il y a qui d'autre sur cette liste à part moi pour partir? Et bien tous tes parents, toute ta famille, m'a-t-on dit. J'ai dit c'est pas possible parce que ma sœur vit aussi également. Et elle a dit non, ça va pas être possible d'emmener tout le monde effectivement.
And she said to me, if you deny to take the plane now,
et elle m'a dit, mais si tu refuses de prendre ce vol, je vais essayer, si tu veux, de mettre ta famille sur un autre vol, mais je ne peux rien promettre. J'ai dit bon.
D'accord.
Et je dois reconnaître qu'à ce moment-là, je n'ai pas vraiment pris la mesure de ce qu'elle disait quand elle me disait, ils seront là, les talibans, dans quelques heures à Kaboul. Ça m'a vraiment surpris, ça m'a surpris moi, mais pas seulement moi, toute la ville de Kaboul. Était prise au dépourvu. On se disait que probablement, si vous voulez, il y aurait un siège, sans doute, plutôt autour de la ville de Kaboul. Donc on avait acheté des denrées alimentaires, de l'eau, etc., pour pouvoir tenir le siège. Et on s'était dit qu'il y aurait des affrontements quand même entre l'armée nationale et les talibans. Et le président, c'est à ce moment-là qu'il a dit, la veille, il a dit, nous on reste là, hein. Personne ne va bouger. Et puis, qu'est-ce qu'on a entendu après? C'est qu'il avait pris l'avion et qu'il était parti, ou d'ailleurs, personne ne le savait. Donc, je suis allée à la banque le 15 août. Je n'ai pas dormi ce soir-là. Je suis allée à la banque pour essayer de retirer de l'argent pour lequel on aurait réussi tous à prendre ce vol, cet avion, puisque on m'avait dit que de toute façon, si avion il y avait, il fallait être vraiment prêt à lever le camp en une heure et être prêt.
I went to the bank few
Donc,
blocks
je
away
suis allé à la banque, qui était juste à quelques pâtés de la maison.
And usually at this bank, usually there were
Et en
like
principe,
5 to 10 to 15
à cette banque, il y a 10, 15 clients d'ordinaire. Et là, je suis arrivé, j'ai vu une foule. J'ai essayé, si vous voulez, de jouer des coudes pour essayer de m'approcher de la banque. Mais il y avait trop de monde. Et on dit, non, t'avances pas, tu fais la queue. J'ai dit, mais non, mais moi, je veux juste aller à la banque. Et puis, il a dit, et puis nous, tu crois quoi? Nous aussi, on attend tous pour aller à la banque. Et c'est là que j'ai vraiment été choquée, parce que je ne m'attendais absolument pas à voir au moins 500 personnes devant la banque. Donc on est resté, on a fait la queue pendant des heures et des heures devant la banque, jusqu'à ce qu'à 11h du matin, finalement, la sécurité de la banque mette tout le monde dehors et nous disperse tous. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient entendu qu'entre-temps, les talibans étaient déjà à Kaboul, ils auraient été vus dans le palais présidentiel. Donc à ce moment-là, ils ont mis tout le monde dehors, moi, de même que 500 personnes, nous avons été mis dehors. Les gens étaient terrorisés, très très effrayés. J'ai jamais vu une telle horreur de toute ma vie. Il y a eu un moment où tout le monde, y compris moi, on s'est dit, ça y est, on est dans la souricière, on est pris, le président est parti, l'armée baisse les bras et rend les armes, et on ne peut pas partir parce que de toute façon, les talibans étaient déjà là, et les drapeaux blancs étaient déjà là. Vous savez, moi, je réalise des films, j'ai même pas pu rentrer, si vous voulez, dans mon appartement, je suis restée complètement hébétée, j'ai regardé ça comme si c'était une scène de film.
I went to my apartment
et donc à ce moment-là, finalement, je suis retournée à mon appartement plus tard. J'y suis restée 3 jours complets sans sortir absolument. Je regardais ce qui se passait dans la rue, par la fenêtre de chez moi. Je ne voyais pas de femme. Autant dire que mon appartement, il est quand même en plein centre de Kaboul, dans le cœur de ville. Donc c'était un lieu où il y avait beaucoup de passages, des cafés, des restaurants, beaucoup de monde circulait dans ce centre de Kaboul, je voyais absolument personne et encore moins des femmes. Et ça m'a fait très peur. Et pendant ces 3 jours, j'ai passé 24 heures sur 24 pendu au téléphone, essayant de parler avec les gens, partager, trouver des solutions, échanger, voir comment aller les uns les autres, trouver une solution pour ma famille aussi. Jusqu'à un moment où des amis qui font du cinéma, mon acteur, tous ces gens-là m'ont téléphoné pour dire on est en danger. Alors j'ai dit, venez chez moi. Et on s'est retrouvés à 20 dans l'appartement. Et à ce moment-là, mes amis ont essayé de m'ajouter sur toutes les listes possibles imaginables. À la fin, j'étais sur 20 listes. La liste de la France, celle des Nations Unies, celle de l'Ukraine, enfin, toutes les listes d'évacuation possibles imaginables. Il y avait quand même 2 problèmes, à savoir qu'ils étaient d'accord pour m'exfiltrer moi, mais pas le reste de ma famille. Et puis deuxième problème, on me disait, ok, vous avez une place sur ce vol, mais il fallait encore y aller jusqu'à l'aéroport. Et ça, c'était le plus gros problème. Donc j'ai refusé, par exemple, le vol danois, parce qu'il ne voulait pas prendre ma famille. Ça, c'était 19 août, donc j'ai décliné cette proposition. Après la France, l'Espagne, d'autres pays m'ont fait des promesses que je pourrais être sur un vol, mais la France est vraiment le seul pays qui m'a envoyé un laissez-passer qui me permettait donc de circuler. On avait entendu en effet qu'il y avait des checkpoints des talibans et que parfois ils demandaient des justificatifs en fait. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi la France, parce qu'on m'a envoyé justement ces laissez-passer. Pour autant, la liste de 20 personnes a été réduite à 10, finalement, de sorte que j'ai pu emporter ou emmener, pardon, avec moi seulement 10 personnes et non pas 20, comme j'aurais préféré le faire. Je me suis dit, allons-y, parce que 10, c'est toujours mieux que rien. Et donc, nous nous sommes rendus à l'aéroport. Le taxi nous a laissé à peu près à 1 kilomètre d'une des portes. On entendait des tirs depuis 6 heures le matin jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Des tirs, 10 en permanence et 10 continus. Je me suis rendu compte que c'était la porte nord, le Northern Gate. Et je me suis rendu compte que cette porte était contrôlée par les forces forces de sécurité afghanes et non pas par les talibans. Très agressif. Il ne laissait pas les gens passer pour aller travailler, par exemple. Moi, en même temps, j'étais en contact avec l'ambassade française qui me disait « Soyez patiente, essayez de continuer à progresser. » Et à un moment, je me suis rendu compte que mon contact à l'ambassade française ne savait absolument pas qui j'étais. J'ai dit « Bon, écoutez, de toute façon, là, je laisse tomber, j'essaie de décider toute seule. » Donc, j'ai mis tout le monde dans un taxi, l'équipe qui était avec moi, on a essayé une autre porte d'accès à l'aéroport.
Then in the Abiquet, we realized on that time I didn't realize of course, but later I realized that there were four checkpoints of Taliban.
Forcément tout de suite, mais je l'ai compris après, c'est qu'il y avait quatre checkpoints de Taliban pour arriver à cette nouvelle porte.
So we waited in the first queue for 14 hours
pendant 14 heures, on a attendu en plein cagnard le premier passage du premier checkpoint Taliban.
And then the queue was not even, you know, moving forward, even not 5
rien ne se passait en fait, la file d'attente ne bougeait strictement pas.
But because there were like hundreds of thousands
mais il y avait des
centaines,
il y avait littéralement des milliers de personnes qui essayaient justement d'accéder à l'aéroport, des gens qui arrivaient de partout et qui venaient grossir cette foule. Et il y avait ce mouvement de pousser de la foule contre le checkpoint des talibans.
Et après,
là, donc, on a attendu encore 8 heures au checkpoint numéro 2. Et au troisième checkpoint, là, on a attendu plus d'une journée entière. On a même dormi en faisant la queue. Ça, c'était la nuit. Et au bout de 72 heures, enfin, le tout après 72 heures, plus exactement. En tout cas, il ne faut pas oublier non plus le dernier checkpoint, le quatrième. On a aussi attendu 12 heures, de 5 heures du matin à 5 heures d'après-midi. Et après, finalement, on a pu accéder.
But the problem was because of all the jammers, I didn't have any signal on my phone, so I was disconnected to all the people who was trying
donc,
to help me.
Les téléphones étaient brouillés, je ne pouvais pas entrer en contact avec les gens qui essayaient de m'aider à distance.
Yeah, and the biggest threat at that moment, it was not Taliban.
Et
who were
la
all
crainte absolue
place,
à ce moment-là, c'était pas vraiment les talibans, parce que de toutes les façons, ils étaient là partout. La vraie peur, c'était la foule.
Because the crowd, you know, that there was this rumor among people that
la foule, elle était parcourue de rumeurs. On disait tout à coup, tiens, tel avion va emmener les gens au Canada ou aux États-Unis. Les hommes, en particulier, ils laissaient là leur famille et ils couraient vers la porte parce qu'ils disaient, ah voilà, il y a possibilité de prendre tel ou tel vol. Mais c'était bien sûr dangereux. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont même pas pu se rendre à l'aéroport pour la bonne raison qu'ils avaient trop peur et qu'ils sont restés enfermé à la maison.
Et
donc, en quelque sorte, les gens qui étaient vraiment ceux qui couraient le plus grand risque, ce n'est pas ceux qui ont forcément pris les avions. Ceux-là avaient tellement peur qu'ils sont restés
and
chez eux. Et après, les gens, il y en a des gens qui restent en Afghanistan.
And they're emailing
et
everyone.
Ces gens-là, ils m'envoient des emails, ils écrivent à tout le monde, ils sont encore là-bas.
And we don't know what will come, but we keep
sans qu'on
fighting
sache ce qui va pouvoir bien se passer pour eux, mais enfin, on va essayer de se battre.
Je voudrais vous proposer d'écouter un reportage de France 24 qui a été enregistré le 5 septembre dernier. Vous en avez parlé tout à l'heure, Gilles, au début de cette émission. Ce sont les talibans qui dispersent une seconde manifestation de femmes à Kaboul. C'était samedi dernier.
Zarguna sort seule, en taxi. Le genre de déplacement que les talibans regardent d'un mauvais œil. Dehors, la vie semble normale. La circulation, les commerces ouverts, les talibans sont à peine visibles. La jeune femme doit retrouver des amis, activistes, féministes, étudiantes, artistes, celles qui disent non aux talibans.
On a fait des années d'études. Les talibans ne nous laissent pas travailler. On ne peut pas revenir en arrière.
La communauté internationale doit entendre la voix des femmes afghanes.
Le bras levé contre les islamistes. Quand les talibans sont arrivés au pouvoir une première fois en 1996, jamais une femme n'avait osé s'opposer à eux. Aujourd'hui, ils semblent stupéfaits devant l'audace de ces femmes.
Mais c'est quoi cette manifestation? Je me demande bien.
Arrêtez de filmer.
Un peu plus loin, elles vont au contact avec des mollahs, prêtes à la confrontation.
Pourquoi
pourquoi voulez-vous supprimer les femmes de la société ?
Pour l'instant, il n'y a pas de sécurité pour aller travailler. Laissez-moi finir. Après, on vous autorisera.
La tension monte d'un cran. Les forces de sécurité talibanes viennent en renfort pour disperser, de façon musclée, manifestantes et journalistes. Quelques gaz pour repousser les plus rebelles. Une bonne frayeur pour toutes. Une femme a été légèrement blessée. Mais le plus important, elles ont fait passer leur message et tenu tête à des islamistes armés.
Beaucoup d'émotions à entendre votre témoignage, Charbanou Sadat. Alors, plusieurs choses qui nous interrogent dans votre témoignage. Et là, je m'adresse aux spécialistes, à vous, Gilles. Pourquoi, effectivement, l'État, entre guillemets, afghan est-il tombé comme un fruit mûr et aussi rapidement, comme vient de l'exprimer Charbanou tout à l'heure? Et d'autre part, qu'en est-il de la situation des femmes aujourd'hui? On sait que depuis dimanche dernier, il y a quelques jours, donc seulement, les talibans ont édicté une loi pour la rentrée universitaire prônant la séparation des hommes et des femmes à l'intérieur des universités. On sait que ces femmes très 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 courageuses continuent à s'affronter au pouvoir des talibans. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut espérer de l'avenir ?
Alors sur la première question, le régime est tombé parce que le régime n'avait aucun soutien populaire. Je crois que ça, il faut le dire et le redire, hein. Ce qui a produit la chute de ce régime, c'est son incroyable corruption. C'est la bulle qui s'était formée à Kaboul, à coup de milliards de dollars. C'est l'incapacité des Américains à négocier un retrait, puisqu'en fait, les accords qui ont été signés à Doha ne sont pas véritablement des accords de paix, mais c'est simplement la garantie que les talibans n'attaqueraient pas les Américains quand ils se retiraient. Les talibans ont tenu parole. D'ailleurs, ils ont co-géré les évacuations à Kaboul, faut le dire. Et moi, ce qui me frappe, et peut-être aussi pour revenir sur le témoignage de tout à l'heure, c'est que, d'un point de vue extérieur, analytique, la chute du régime était évidente depuis 2014. C'était une question de temps. Et ce qui est tragique, c'est la surprise. On pouvait effectivement penser que le régime allait tomber, peut-être plutôt en décembre qu'en septembre ou en août. Mais le régime allait tomber. Et il y avait une telle bulle, un tel sentiment de sécurité dans les élites intellectuelles, artistiques à Kaboul, que jamais, finalement, ils ont anticipé le départ. Ce qu'on était quelques-uns à essayer de crier sur les toits depuis des années. Maintenant, sur la deuxième question, je crois que si la guerre civile est terminée, c'est la guerre sociale qui commence. Et cette guerre sociale, elle va se jouer dans beaucoup d'endroits, travail salarié, parce qu'en fait, on dit que les femmes ne sont pas autorisées à travailler. Si, si, les femmes sont beaucoup autorisées à travailler, mais pas de façon salariée. Et surtout en Afghanistan, il y a une vraie différence. Et donc, travail salarié, santé, éducation. Donc là, les talibans ont lâché du lest par rapport aux années 90.
Avec une économie désastreuse pour le moment.
Oui, l'économie désastreuse pour deux raisons. Hein, des sécheresses, une sécheresse historique, et puis deux, l'ancien régime a pillé les caisses, hein, a vidé les caisses complètement. Donc, sur ces terrains-là, il va y avoir un affrontement. Alors, un affrontement qui ne sera pas armé, qui ne sera pas militaire, mais c'est un affrontement social où chacun va mobiliser qui peut. Et les groupes de femmes manifestantes, etc., ne s'adressent pas tellement aux talibans, en réalité. Elles s'adressent à l'opinion. Alors, internationale, voilà, à l'opinion internationale pour faire pression sur le régime taliban. Et je pense que ça peut marcher puisque les talibans ont besoin de financement. Donc, par exemple, sur la réouverture des universités privées, les talibans veulent des universités qui fonctionnent, hein, pour des raisons évidentes. Ils ont fait une concession absolument essentielle, c'est le retour des étudiantes. Donc, le fait qu'elles soient amenées à porter le voile ou pas, c'est très, très peu important par rapport à ce phénomène structurel d'avoir des femmes étudiantes, qui est beaucoup plus important que la séparation ou le voile. Et ça, c'est une déclaration. Apparemment, ça commence à fonctionner, mais si le regard international doit se porter non pas sur le fait que les femmes doivent avoir le voile, mais beaucoup plus sur le nombre d'étudiantes. Voilà.
Donc plus on manifestera à l'intérieur du monde entier sa solidarité vis-à-vis du combat de ces femmes très courageuses, plus on les aidera à pouvoir continuer leur lutte et à se faire comprendre et respecter du pouvoir taliban.
Oui, et plus on aura des alliés locaux, parce qu'en fait, plus vous aurez des ONG, des internationaux qui seront sur place et qui, soit dit en passant, ne risquent rien parce que le régime taliban a besoin d'eux, plus on aura des témoignages, plus on aura des moyens d'intervenir. Les talibans, c'est comme tout pouvoir, ça va se complexifier, se diversifier. Il y a des gens qui seront prêts à jouer, d'autres pas. Et c'est pas de Paris ou de Washington qu'on arrivera à créer. Il faut du micro-conflit, en fait, en Afghanistan. Il faut sans arrêt créer des micro-conflits, mais il faut pas pratiquer l'espèce de discours moral très lointain qui se traduirait concrètement par un isolement de l'Afghanistan. C'est le contraire, il faut y aller et se battre.
Alors nous sommes toujours en présence du musicien donc Kengo Saito et de la poète Ousnia Anouari. Et je crois que vous allez nous lire un second poème, Ousnia.
Oui, c'est un second poème que j'ai écrit il y a longtemps, qui parle de l'histoire d'une fille, en fait d'une fille qui a été morte par l'attentat à Kaboul. Cette fille, voilà, il y avait un attentat dans une école de filles, et cette fille, cet enfant, est mort dans cet attentat. دخترم آرام بخواب به شهر رویاهایی که خاک شدند کودکی و زندگیت را گرفتند تا دیگر جغرافیا نخوانی در جغرافیایی که هرگز قبولت نکردند زیرا جرمت دانایی بود و معصومیت این که مبادا فردای آن سرزمین روشن شود از تو درس داشتند هنگامی که قد کشیدی و پا گذاشتی به مکتب تو را طرد سرزمینت نه بلکه طرد این جهان کردند کی به یاد خواهد آورد نامت را و از آرزوهایی که دیروز به مادر گفتی مادر جان غصه نخور من هستم قبل از رفتن به مکتب از آغوش رها شدی و با لبخند و صدای کودکانت گفتی خدا حافظ مادر جان کودک دیگر هرگز بر نگشت تنها هدیه مادر کتابچه های نیم سوخته بود و کتاب جغرافیا ماند در جغرافیایی که سهم و تاریخش ترور شده است کودک دیگر بر دست نمی گیرد کتاب ها و کتابچه های نیم سوخته اش را کسی آن را ورق نخواهد زد کسی آن را در گوشه موزیم مکتب و یادگار نخواهد گذاشت همه چیز سر جایش میماند و دنیا تکان نمیخورد کنفرانس های مطبوعاتی ادامه خواهد داشت امروز مرگ تونی سرخط خبرهای روزانه شده است برخی به الفاظ محکوم میکنند برخی بی تفاوت اینجا روح من میمیرد دلم گیر می کند و پرسش هایی که جواب ندارند و غم های سرزمینی که تمام نمی شوند لحظه با دود سیگار می سوزانم و به سکوت بی پاسخ مات می شوم هیچ می شوم هیچ دخترم هیچ آرام بخواب
Merci Ariane Mouchkine d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale autour de l'Afghanistan ce soir. Je sais qu'avec vous, vous avez depuis maintenant 2005 créé des liens profonds et particuliers avec les artistes afghans, notamment au théâtre. Comment a commencé cette histoire et comment elle continue encore aujourd'hui, Ariane ?
Comme vous le disiez, en 2005... C'était un moment comme ça, plein d'espoir au fond pour l'Afghanistan. Nous sommes allés donner un stage une sorte, en fait, c'était la première école nomade, d'une certaine façon. Et nous sommes restés, une quarantaine d'entre nous, 3 semaines, presque un mois, à Kaboul, dans une fondation qui nous accueillait, où nous dormions, et où nous donnions donc ce stage pour une centaine, disons 140 jeunes Afghans et Afghanes, parce qu'on avait, dit que s'il n'y avait pas de femmes, on ne travaillerait pas. Et donc, voilà. Et au fond, parmi ces 140, il y en avait, je dirais, une quarantaine qui étaient là pour le théâtre. Pas seulement par curiosité ou pour être un peu à l'abri, puisqu'on était dans un beau jardin et un peu, disons, protégé. Et il y avait une quarantaine de jeunes, d'étudiants, certains déjà étudiants en théâtre, même si les moyens de l'université, vous pouvez les imaginer. Hein, il y avait quelques livres sur quelques étagères, mais des professeurs très, très dévoués. Et donc là, nous avons rencontré une vingtaine à la fin. Il y a une vingtaine de ceux qui s'étaient révélés, je dirais, les leaders de ce stage, qui ont fondé tout de suite, comme ça, un peu sur une provocation de ma part, mais qui ont fondé un groupe tout de suite, avant que nous quittions Kaboul. Ils se sont appelés le groupe AFTAB, le théâtre AFTAB, et AFTAB veut dire soleil. Enfin, donc, ils se sont comme ça érigés en théâtre, en petit théâtre du soleil à Kaboul. Et depuis, nous sommes jamais vraiment quittés. C'est-à-dire que nous sommes retournés, certains d'entre nous montaient des spectacles avec eux. Eux sont venus et ont été accueillis pendant un an à l'ANSAT, à l'école donc à Lyon. Le but était qu'ils puissent retourner en Afghanistan et faire du théâtre là-bas. Mais en fait, petit à petit, le miracle s'est estompé, disons. Et donc, à un moment donné, ils sont arrivés ici et ils sont restés. Et maintenant, ils sont tous français, tous francophones, tous comédiens avec nous. Donc, ce qui fait qu'au fond, le Théâtre du Soleil est à presque un quart de ses effectifs qui sont d'origine afghane. Peut-être c'est là où on se trompe. Ce qui vient d'arriver ne vient pas d'arriver. C'était écrit depuis longtemps. Je pense que quand Trump signe les accords de Doha en février 2020, hein, donc il y a presque 2 ans maintenant, bientôt, il sème le désastre. Et ce désastre est lisible. Et personne ne peut dire, en faisant ça, en signant avec les talibans un accord de retrait des troupes, il se met ce désastre que nous avons vu, mais au fond, si on avait entendu à ce moment-là, si les exfiltrations de nos amis, de nos collaborateurs là-bas, de tous ceux qu'on a essayé de sauver là en 15 jours, si ça avait commencé à ce moment-là, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Mais bon, c'est pas le moment de faire des reproches. En plus, je pense que tout le personnel de l'ambassade, des ambassades d'ailleurs qui étaient encore présentes, tout le monde a été héroïque et extraordinaire. Et je pense que dans le peu de temps qu'ils ont eu à ce moment-là, je pense qu'ils ont effectivement sauvé le maximum, sorti le maximum de gens vulnérables, des cibles. Voilà, il y a des gens qui deviennent des cibles là-bas, des femmes, beaucoup. Donc c'est pas maintenant que les talibans vont très gentiment offrir des passeports à tous leurs concitoyens. Bien sûr que non. Donc, il va falloir quand même sortir des gens sur recommandation, je dirais, en nous engageant, nous, à ce que ces gens soient des amis de la France et pas des ennemis. Il ne s'agit pas du tout d'une immigration massive. Ça, je crois que c'est un leurre. C'est pas vrai.
D'asile politique, tout simplement, non, Ariane Mouchkine ?
Oui, exactement. Moi, je pense que c'est déjà cet abandon. Je ne suis pas une spécialiste de l'Afghanistan, mais il ne faut pas l'être pour savoir que cet abandon, comme ça, nous en paierons les conséquences. Et je pense qu'on les paiera d'autant plus que nous aurons mal agi en plus après et abandonné des gens qui nous ont aidés ou qui résistent au totalitarisme islamiste.
Merci Ariane Mouchkine. Kos Romani, merci infiniment d'être avec nous ce soir pour évoquer la situation en Afghanistan. Vous êtes un réfugié politique, vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux romans, 6. Le dernier est magnifique, il s'intitule « La mort et son frère », il vient de paraître aux éditions Actes Sud. Vous êtes devenu journaliste en France, vous avez quitté votre propre pays parce que vous y étiez menacé. Que ressentez-vous aujourd'hui par rapport à vos amis, à votre famille, toutes celles et ceux qui sont en Afghanistan maintenant? Et comment vivez-vous la situation?
Comme tout le monde, j'étais surpris, comme tous les Afghans. J'étais pas surpris parce que c'était une défaite incroyable. Je suis totalement d'accord avec Gilles quand il dit que c'était une défaite prévisible. On savait que ça va pas durer. Le seul problème, c'était la rapidité des événements. On a été choqués, on était choqués. Nous sommes toujours sous le choc. Nous, les Afghans qui sommes à l'étranger, qui vivons en exil, et bien sûr les Afghans qui sont toujours en Afghanistan. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pas la chute d'un régime. Ben, c'était un régime corrompu, on le sait. Ce qui m'inquiète, c'est le sort d'une petite classe moyenne, j'ose l'appeler comme ça, qui s'était formée pendant ces 20 dernières années à Kaboul et dans quelques autres villes. Et cette classe moyenne, elle est en train de soit disparaître, soit quitter le pays, de s'exiler d'une façon ou d'une autre. Une partie de ces gens qui sont arrivés en France, en Allemagne, aux États-Unis, je sais pas ailleurs, ils auront un avenir, c'est sûr. Mais pour avoir cet avenir, il faut surmonter tous les traumatismes, toutes ces peurs, l'humiliation qu'ils ont subie en quittant l'Afghanistan. Et ça, c'est vraiment pas facile. Ceux qui sont toujours là, qui sont à Kaboul ou ailleurs, ils ont deux, trois choix. Pas beaucoup. La première choix, c'est de rester silencieux, de ne rien dire contre les talibans. Le deuxième choix, c'est de quitter le pays, d'aller au Pakistan, en Iran, s'il y a une possibilité. Et le troisième choix, c'est de se battre. Mais le problème, c'est que quand vous n'avez pas de moyens, la lutte, c'est pas toujours facile. Là, ces jours-ci, on voit ces jeunes femmes à Kaboul, à Herat, à Balkh. Bah, j'apprécie cet acte, ces gestes, ces mouvements, ces manifestations. Mais je suis un peu inquiet pour l'avenir de ces manifestations. Aujourd'hui, on a eu des violences contre ces femmes. Et hier et demain, soyez sûrs, les violences seront complètement différentes. La forme, les talibans vont pas se comporter comme ça, comme aujourd'hui. Là, ils savent comment se comporter un peu diplomatiquement pour être reconnus par la communauté internationale, par les États-Unis, je sais pas, par la France. Bah, c'est le début. C'est le début, bien sûr. Mais moi qui ai vécu sous le premier régime des talibans, je me souviens très très bien des facts, des faits, et je sais très bien que la situation va s'aggraver. Ça sera pas comme ça dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Mais je le dis pas pour dire que je suis désespéré, pas du tout. Moi je pense que pour nous, même pour nous qui sommes ailleurs, pas en Afghanistan, même pour nous, la résistance, c'est plus un choix, c'est une nécessité, une exigence. On peut résister chacun à sa façon. Moi, en tant qu'écrivain, je ne peux pas prendre les armes. Je vais écrire et je vais critiquer les talibans. Et ceux et celles qui sont à Kaboul, bah, ils vont résister à leur propre façon. C'est cette classe moyenne. Je reviens à ce que j'ai dit au début. C'est cette classe moyenne. Je sais que on a des jours et un avenir incertain devant nous, mais il faut garder espoir quand même.
Je vous propose d'écouter un reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Wilson Fash. Un reportage qui se passait hier dans les rues de Kaboul où un musicien a été agressé par les talibans.
Les instruments qui ont échappé au courroux des talibans sont soigneusement entreposés dans un coin de la cave. Depuis l'arrivée au pouvoir du mouvement islamiste il y a maintenant 3 semaines, c'est le nouveau rituel de Ahmad Fardin, s'enfoncer sous terre pour continuer à faire de la musique sans prendre le risque qu'on puisse l'entendre depuis la rue.
«
Ahmad Fardin reprend une chanson populaire pour clamer son amour de l'Afghanistan. Mais le retour des talibans lui donne des envies d'exil.
Je n'ai plus d'avenir en Afghanistan parce que les talibans ont détruit la plupart de mes instruments et ils menacent les musiciens. Dans ces circonstances, comment va-t-on faire pour encore jouer? J'ai consacré ma vie entière à la musique. Si je veux avoir l'opportunité de continuer, je n'ai pas d'autre choix que de quitter mon pays.
Un de ses amis l'écoute en silence et finit par fondre en larmes. L'atmosphère est lourde. Ses notes et ce timbre de voix ont peut-être retenti ici pour la dernière fois. Mazar el-Sharif, Wilson Fash, France Inter.
Pour terminer cette émission, je vous propose une seule question. La résistance, je vous la pose à tous les deux. D'abord à Charbanu Sadat, cinéaste, auteur de 3 films magnifiques, et puis à vous, Gilles. La résistance dont vient de parler Khosro, vous y croyez ?
Je suis très touché, je suis très frappé par ce que vient de dire effectivement Khosro. Je le rejoins pleinement. On n'a pas le choix, c'est nécessaire. Il faut aller de l'avant, même si c'est très difficile actuellement. Si je vous parle de mon cas personnel, je dois vous dire que je ne me sens pas très stable actuellement, puisqu'il y a une partie de moi qui veut retourner sur place et être avec les femmes qui se battent dans la rue. Mais en même temps, je me dis, mais c'est du suicide. Et maintenant que je suis sortie du pays, il faut que je fasse quelque chose de grand, il faut que je fasse des films. Il faut que j'essaye de résister avec mon art. Le fait d'être un artiste ou une artiste, c'est résister, puisque c'est interdit par ce régime. Et effectivement, il n'y a plus de place pour les artistes et ils doivent absolument fuir le pays s'ils veulent poursuivre leur art. Donc je me dis, je peux peut-être faire cela, vivre la résistance personnelle à travers mon travail, à travers l'art, l'expression artistique, mais ça n'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est facile à faire en disant, allez, on va espérer. L'espoir, on peut le mettre un petit peu sous cap pendant un moment, vous savez, je pense. Mais vous savez, le matin, parfois, je suis pleine d'espoir, et puis l'après-midi, je vois les nouvelles, et puis à ce moment-là, je plonge dans le désespoir. Je fais un peu la navette, en tout cas, entre un grand nombre d'émotions très différentes, et je ne suis certainement pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose que moi. Mais c'est très important. Je pense de trouver notre voie. Chacun doit trouver en tant que personne ce qui est bon pour lui ou pour elle.
Espoir, Gilles, résistance.
Alors résistance, pas au sens militaire. Hein. Les talibans sont là pour au moins une génération.
Artistique,
spirituel. Et puis n'oublions pas qu'il y a quand même un avantage majeur, c'est l'existence d'une diaspora afghane qui va pouvoir, par son contact avec l'Afghanistan, par son contact avec les autorités occidentales, les ONG, etc., entretenir une résistance culturelle qui, je pense, est loin d'être désespérée. Hein. Le monde change, Internet est difficile à contrôler.
50% des Afghans ont moins de 25 ans, donc ils n'ont jamais subi les règles édictées par les talibans lors de leur première prise de pouvoir. Ils ne vont peut-être pas accepter non plus.
L'âge médian est 18 ans, les gens ont envie d'écouter de la musique, que ça va bouger, ça va bouger.
Merci infiniment à vous tous et vive l'espoir. Merci beaucoup.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner. Est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire, devant lui se tient un miroir. Son reflet de bain. dire si tu dors. Ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège, ton enfant qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi.
Avec Renverser d'Émilie Loiseau que nous allons nous quitter ce soir. Je voudrais remercier notre toute petite équipe de s'être littéralement défoncée pour préparer cette émission. Donc merci infiniment à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian et Lilian Alloum qui a réalisé cette émission. Un grand merci à Mathias Alléon qui, dans notre petit studio, a pu enregistrer et diffuser ces merveilleux poèmes et cette musique. Merci à Hélène Joguet qui a réussi, comme d'habitude, sa traduction simultanée. Et merci à nos invités, Kos Romani. Je rappelle que son dernier livre vient de paraître aux éditions Actus Sud et que c'est une merveille, La mort et son frère. À Charbano Sadat, la cinéaste, auteur de, notamment de L'orphelinat et de Loup et Mouton, et du professeur Gilles Dorosoro. Et je voudrais signaler la publication de son dernier livre, Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite. Et puis, Ousnia Anouari et Kengo Saito nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Ils seront présents à la Maison de la Poésie à Paris le dimanche 19 septembre prochain. Toutes les infos sont sur notre site.